Seigneur Jésus, nous te remercions. Oh, tu es devenu tout pour nous. Nous nous réjouissons de toi. Nous te remercions pour ton œuvre accomplie à la croix, pour ta résurrection, pour le déversement de l'Esprit. Merci pour ce temps ensemble. Tu es maintenant au milieu de nous, Seigneur, et pour parler à chacun d'entre nous, Seigneur, donne-nous la bonne parole et la bonne écoute. Nous te louons, Seigneur. Comment devons-nous commencer, Seigneur Jésus? Je suis convaincu que celui qui a commencé en moi, en vous, qui a commencé une bonne œuvre, c'est vraiment bon. Et comme hier un frère a dit, c'est tout l'Évangile en fait. L'œuvre est un évangile, une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et nous sommes dans cette œuvre bonne, merveilleuse. Nous avons été placés dans cette œuvre. Dieu va de l'avant. Et nous sommes au milieu. Et c'est aussi merveilleux de l'observer à chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, dans tous les frères et sœurs. Que Dieu œuvre. Dieu œuvre. C'est la plus grande des nouvelles. Tu n'as pas besoin de t'en dire. Quand Dieu voit que Dieu agit, quand les gens voient que Dieu agit, ça attire. Notamment ceux qui cherchent déjà Dieu. Pour moi, ça m'a attiré de voir Dieu agir, pas forcément dans des choses si extérieures, mais intérieurement, comme il œuvre intérieurement, comme il œuvre, le vouloir et le faire, comme il œuvre, c'est la conversion des cœurs, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. En fait, l'évangile veut dire bonne nouvelle ou une nouvelle qui réjouit. Quand tu écoutes l'évangile, à quoi tu penses? Maintenant, pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le point essentiel de la bonne nouvelle? De quoi te réjouis-toi? De quoi te réjouis-tu? Est-ce que tu te réjouis vraiment? Est-ce que c'est vraiment c'est ce qui conduit ta vie à la reconnaissance envers le Seigneur? Change ton cœur et le rends reconnaissant, plein d'amour pour le Seigneur. L'évangile signifie bonne nouvelle, nouvelle qui réjouit. Le mot a aussi, dans le passé utilisé, dans le domaine mondain, c'était la nouvelle, c'était souvent une nouvelle d'une victoire qui était annoncée. Nous avons gagné, et le messager, le messager qui apportait cette nouvelle au roi, au chef, était l'évangéliste. Nous sommes de tels évangélistes qui apportons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la victoire. Nous apportons cette nouvelle aux hommes. C'est un honneur. C'était toujours un honneur. C'était toujours un honneur pour un messager d'apporter une telle nouvelle. Quel honneur, quelle joie pour nous de propager, de continuer à partager cette bonne nouvelle dans chaque situation. Paul dit même dans la vie ou dans la mort, ça inclut toute sa vie. Sa vie était l'Évangile. Il était si rempli, si fortifié par le Seigneur. Il était tellement poussé par le Seigneur, plein de joie, d'amour, totalement rempli du Seigneur. Et sa vie était un Évangile pour les hommes. L'Évangile même courait. C'était vraiment un évangile qui progressait. L'évangile courait, se propageait en commençant, je dirais. Où est-ce que l'évangile a commencé? Qui a prêché le premier évangile? Jésus, Jean-Baptiste, Dieu lui-même,
un engel.
Un ange.
Das Evangelium hat ein engel.
Un ange avait annoncé l'évangile.
Lucas,
dans Luc 2, c'est un ange. Dans Luc 2, versets 10 et 11, qui va le lire? Alléluia. Luc 2, versets 10 et 11. Nous pouvons le lire ensemble, ceux qui l'ont. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'était la première annonce de l'Évangile. Les bergers étaient là dans les prés, et puis soudainement il y avait un ange qui était là et leur dit « Ne craignez point, il y avait déjà de quoi avoir peur ». Mais il leur dit « Je vous apporte une bonne nouvelle, je vous apporte la bonne nouvelle, la bonne nouvelle ». C'était un évangile d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est notre évangile, une personne. C'est pas un ensemble d'ordonnances, de rites, de pratiques, d'enseignements, mais c'est Jésus-Christ simplement. Nous voulons nous laisser réduire, nous laisser centrer sur cette personne. C'est la meilleure des choses. C'est la plus grande des protections. Je regarde à Jésus. Je suis si content d'avoir été affranchi de tous mes concepts bizarres, de tout ce que je dois faire, tout ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas possible.
Ah,
oublie tout. Regarde à ce Jésus. Et alors tu sais ce qui est possible. Et ce Christ est maintenant mien, ma vie, il veut être tout. C'est mon évangile. C'est ce que je vis. C'est ce dont je parle. C'est vraiment ce qui détermine mon sentiment de vie, le contenu de ma vie. J'aime le Seigneur. Et je voudrais le vivre encore davantage, l'expérimenter encore, l'apprécier davantage. C'est la bonne nouvelle. Paul disait dans Romains 10, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. D'un côté, c'est en moi, dans Luc 10. Mais quand cela sort, c'est encore plus béni, c'est encore béni. L'Évangile est en moi et je peux le garder en moi. Mais si je me libère de tout ce qui me retient, c'est c'est beau, et ça, je serai béni quand cet évangile ressort à d'autres personnes ou même dans l'Église, partout où le Seigneur veut être glorifié. Et maintenant, verset, dans Philippiens 2, verset 12, Philippiens 1, verset 12, je veux que vous sachiez, frère, ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Oui, il était en prison, il avait une chaîne au pied. Comment ça te va? Comment vas-tu, Paul? C'était la question des Philippiens. Ils avaient une compassion pour Paul. Comment ça va? Et Paul leur dit, Paul leur dit pas comment il va. Comment allez-vous? Comment ça va chez chacun d'entre vous? T'es-tu déjà demandé comment tu allais ce matin quand tu t'es levé? Oh, ce matin, je suis pas si propre. Oh, j'ai de la peine à me lever. Oh, les enfants sont pas tranquilles. Oh, toutes mes souffrances. Oh, comment je vais? Oh, j'ai nouveau mal à la gorge. Nous sommes tellement occupés par notre sensibilité toute la journée. Oh, j'ai maintenant pas envie. Oh, maintenant ça me ferait du bien. Et puis encore, oui, il y a encore ça. Oh là. Oh non, ça va pas si bien. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul, je voudrais savoir comment tu vas. Non, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Au progrès de l'Évangile. L'Évangile expérimente là un progrès. Imaginez-vous combien l'Évangile se propageait à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez encore de ces disciples qui étaient là, enfermés comme les poules dans un poulailler? Ils avaient peur des Juifs, des Juifs qui venaient de tuer leur maître et Seigneur. Pendant 2 jours, ils ont eu peur. Et alors Jésus est venu, le ressuscité, et est apparu au milieu d'eux, et leur a dit, la paix soit avec vous. Je suis là. Et alors il a soufflé sur eux et ils ont reçu l'Esprit. Et après ils n'avaient plus peur. Ils se sont rassemblés. Et le Seigneur leur est apparu 40 jours, toujours à nouveau, et leur parlait du royaume de Dieu. Leur parlait du royaume de Dieu. Merveilleux. Oh, je crois que nous aurions tous voulu être avec le Seigneur. Ça devait être merveilleux de voir ce ressuscité qui leur apparaissait, qui disparaissait. Mais ainsi, il les a entraînés à sa présence invisible et ils sont restés ensemble. Et après 40 jours, le Seigneur est monté en ascension dans les cieux et ils sont restés. Ils sont restés entre guillemets seuls, mais avec sa présence invisible. Ils ont prié pendant 10 jours. À la fin, il y avait environ 110 qui priaient. Et alors la Pentecôte est arrivée et le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à parler dans d'autres langues, même dans d'autres langues, et tous ceux qui les entendaient dans leur langue. ils les entendaient parler. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile a explosé soudainement. Et les gens sont venus en foule. Et Pierre a tenu à donner ce message. Ce Christ que vous avez crucifié, et il n'est pas mort, il est ressuscité. Et chacun peut l'expérimenter, car l'Esprit a été déversé sur toute chair, comme ça avait été promis dans l'Ancien Testament. Repentez-vous. Repentez-vous. Croyez à l'Évangile. Laissez-vous baptiser pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que l'Évangile s'est propagé. Soudainement, il y avait 3000 personnes qui l'avaient reçu. Ce n'étaient pas tous les auditeurs. Il y avait plus de 3000 personnes, mais l'Évangile a continué à être annoncé. Et Jésus vit. Jésus est en ascension. Il vit en moi. Tu ne veux pas l'expérimenter. Repends-toi. Laisse-toi baptiser pour le pardon des péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est si simple, un évangile si simple. Je crois qu'ils ne savaient pas beaucoup plus que ce qui venait d'expérimenter. Oui, le Seigneur vit, je l'ai expérimenté, tu dois aussi le croire. Il est le Seigneur en ascension qu'ils ont crucifié, le Seigneur en ressuscité qu'ils ont crucifié. Pierre s'est nouveau levé, il a encore une fois annoncé l'Évangile, puis après il y a un paralytique, un mendiant, un pauvre mendiant qui a été guéri, puis il a commencé à sauter, à louer Dieu, et Pierre leur dit, mais c'est pas nous qui l'avons fait notre force, mais par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause de ce nom que cet homme est en bonne santé devant vous. Le nom est un merveilleux moyen pour toucher le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour le nom. Jésus-Christ, si court, mais il inclut tout l'Évangile. Résumé dans l'Évangile, celui qui prononce ce nom et l'invoque est sauvé. Et c'est un fait et ça peut être expérimenté par chaque homme. Un Évangile. Quel est votre Évangile? Qu'est-ce qui détermine votre vie? J'ai demandé à des frères et sœurs, quel est votre évangile? Tu ne dois pas toujours maintenant marcher avec un visage souriant constamment parce que tu as reçu l'Évangile, parce que le Seigneur vit en toi. C'est insensé d'attendre cela. Néanmoins, je dois savoir ce que j'ai et ce que je peux donner, ce que je peux partager. Les réunions sont déjà une expression de cet Évangile glorieux. Que faisons-nous dans les réunions? Nous partageons ce que nous avons reçu. C'est merveilleux. C'est pourquoi la réunion est glorieuse. Pour moi, chaque réunion est glorieuse. Les réunions de maison, les réunions de prière, la table, chaque réunion de l'Église est pour moi une bonne nouvelle. Plein d'évangiles. Et on raconte toute la palette de l'Évangile. En commençant par ce que nous avons dit, que les gens sont sauvés jusqu'au salut de notre âme. Chaque salut de l'âme est un Évangile. Chaque pas vers le salut est un C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui réjouit. C'est vraiment le dessein, le plan du Seigneur. Et ça, c'est le progrès de l'évangile. Vous savez, à l'époque, Pierre a été enfermé, mis en prison, et puis a été auditionné par le Sanhédrin. Ils étaient si courageux. Ils lui ont interdit, on l'a menacé s'il parlait encore. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Que pouvons-nous faire? Il nous faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Vous êtes que des hommes. En d'autres termes, mais nous avons expérimenté Dieu. Nous avons expérimenté Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et puis ils l'ont menacé, puis ils l'ont libéré. Et un peu plus tard, ils ont nouveau prêché. Ils l'ont encore une fois enfermé. Et puis un ange a ouvert la porte. Les portes et leur a dit, mais allez au temple et annoncez cette bonne nouvelle. Et le Sanhédrin voulait les auditionner le matin et la prison était vide. Et ils ne savaient pas que faire. Et alors il y a des gens qui sont venus, leur ont dit, mais ces gens sont au temple et ils annoncent la bonne nouvelle. Quoi? Au temple? Alors ils les ont fait amener sans... Et en faisant attention que le peuple ne les lapide pas. Et encore une fois, ils les ont menacés devant le Sanhédrin. Ils voulaient déjà les tuer. Et alors, il y avait ce membre du Sanhédrin, Gamaliel, qui leur a dit, faites attention de ne pas les toucher, car il se peut que vous touchiez l'œuvre de Dieu. Mais personne... s'est vraiment tourné. Il a juste dit, il se peut que ce soit l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui tu démontrais la probabilité que Dieu existe, et si tu œuvrais selon cette probabilité, ce serait le salut pour ces gens. Mais non, c'est pas possible que Dieu existe. Je veux vivre ma vie. Je suis mon propre roi, mon propre chef, pour ne pas dire je suis mon propre Dieu. Mais je fais ce que je veux. Ils ont encore une fois été menacés. On les a même frappés. Et ils sont revenus chez les leurs, chez les autres disciples, en se réjouissant, et même étaient fiers d'avoir souffert pour le Seigneur. Et l'Église a prié, loué, et la terre a tremblé. Et le Seigneur a donné même un signe. Le diable a essayé ce qu'il voulait, comme ça a été dit hier, le diable n'est pas un problème. Quand les cœurs sont vraiment droits et purs, ben l'évangile progresse sans obstacle. Ne dis pas, aujourd'hui tout est différent. Je ne sais pas si tout est différent. Peut-être les cœurs sont totalement différents. Je crois que les cœurs sont différents d'aujourd'hui. Mais que nous puissions donner notre cœur au Seigneur, c'est toujours vrai, pour qu'il puisse œuvrer et porter du fruit. Comme le Paul prie pour les Philippiens et parle aussi du fruit de l'œuvre. Paul était tellement centré sur le fait de vivre l'Évangile. Il vivait et cela contribuait au progrès de l'Évangile. Qu'importe s'il était maintenant en train de voyager, de visiter des lieux, et tu peux dire en prison, ouais, je ne peux pas continuer à parler. Et si Paul ne parlait pas, c'était ses liens, ses chaînes qui parlaient. Et comment parlaient ces liens? En fait, les gens demandaient, mais pourquoi ces liens? Le prétoire, c'était ce lieu, ce centre de commandement C'était un lieu où ils habitaient, où ils régnaient, où le chef régnait, il habitait et il y avait une prison aussi. Donc. Et Paul était là, dans cette prison, mais il se racontait qu'est-ce qu'a fait ce prisonnier. C'est un citoyen romain qui est là dans les chaînes. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est cette religion dangereuse qu'il annonce? Écoutons donc cette religion, c'est intéressant. Au moins, on veut l'écouter, on voudrait savoir ce qu'il en est. De quoi il s'agit en fait? Et qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Paul était en prison. Paul était en prison à cause de la défense et de la confirmation de l'évangile. Au verset 7, dans la défense, au verset 7 et la confirmation de l'évangile. Il était pour la défense et la confirmation de l'évangile. Cela ne le concernait pas juste lui, mais tout l'évangile, Jésus-Christ qui habitait dans les hommes. Cela concernait l'évangile de Dieu qui doit être propagé. Le Seigneur était là dernière. Et quand le Seigneur est là, qui peut l'empêcher? Aucun Sanhédrin. Aucun lien, aucun ennemi ne peut empêcher l'Évangile. Afin que mes liens soient connus dans le prétoire, mais aussi partout ailleurs. Ça, c'est au verset 12, et puis au verset 13, et puis au verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur ont été encouragés. Est-ce que c'est pas beau, c'est pas doux, ça? N'est-ce pas un effet merveilleux de l'Évangile? Que les frères et sœurs étaient là à l'endroit, que les frères et sœurs qui étaient là à Rome ont commencé à prêcher davantage l'Évangile à Rome. Ils ont vraiment pris confiance dans le Seigneur. Ils ont été encouragés, ont eu plus d'assurance, plus de confiance. Et nous en avons besoin pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Et comment prions-nous? Annonçons l'Évangile. Nous annonçons l'Évangile avec le Seigneur devant les yeux. Il est à côté de moi, il est devant moi, il est en moi, il est là. Fais confiance au Seigneur. Et il est dit en allemand, ils ont osé, c'est-à-dire ils ont eu le courage. Fais attention que tu... À l'époque, tu devais faire attention que tu ne tombes pas en prison, tu n'arrives pas en prison. Et ils annonçaient un autre Dieu au milieu de beaucoup d'autres dieux, en disant que tous ces autres dieux étaient des idoles, oublie tout cette idolâtrie. Et l'empereur était aussi un dieu, et malheur à toi si tu ne considérais pas l'empereur comme un dieu. Ce n'était pas si facile, c'était bien plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne perd sa tête à cause de l'Évangile. Parfois, tu perds la face. Et nous aimons tellement notre face, notre belle face. Nous voudrions pas perdre la face. Oublie ta face, ta condition, tout ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Essaye encore à annoncer l'Évangile sans timidité. La plupart des frères ont encore eu plus de courage pour annoncer sans crainte la parole. N'est-ce pas possible aujourd'hui? Je crois que c'est possible et c'est une grande joie. Et plus nous faisons des expériences avec l'Évangile, et moins nous avons de peur. Chacun a une bonne nouvelle. Chacun a quelque chose. Chacun peut partager quelque chose, cette bonne nouvelle qui réjouit. Nous n'annonçons qu'une bonne nouvelle. Nous lisons dans les informations, dans les journaux, nous écoutons les informations, les mauvaises nouvelles du monde, mais nous avons une bonne nouvelle. Nous sommes des hommes pleins de bonnes nouvelles. Nous partageons de bonnes choses. Nous partageons des choses qui sauvent, qui édifient, qui réjouissent. C'est notre fonction. Louez le Seigneur. Par amour. Au verset 16. Au verset 16, ceux-ci agissent par amour. Ils pensent en notre frère, notre cher frère est en prison. Nous voulons montrer que la parole n'est pas liée. Nous sortons, nous vous prêchons l'Évangile. Notre frère Paul doit voir que tout ne dépend pas de lui. Nous sommes aussi là pour pouvoir prêcher l'Évangile. Nous tous, nous sommes tous des prédicateurs de l'Évangile et ils en sortaient. Pleins de courage, de joie, ils ont prêché l'Évangile. Et c'est peut-être plus efficace encore que si seulement Paul annonce l'Évangile. Et je peux m'imaginer que Paul se réjouissait quand il a entendu cela. Que les frères avaient annoncer encore davantage l'Évangile alors qu'il était en prison. Et c'était aussi une bonne nouvelle pour Paul qu'il avait reçu des frères et sœurs. Ils l'ont fait par amour et aussi par amour pour le Seigneur. Parfois, nous avons encore besoin encore d'être poussé par amour pour les frères et sœurs, par amour pour les hommes. L'amour est une bonne motivation pour l'Évangile. Naturellement, il y avait aussi des problèmes, comme aujourd'hui. Il y avait des chrétiens qui prêchaient l'Évangile. Ils prêchaient l'annonce, l'Évangile, mais avec une opposition constante opposition à Paul. Faites attention à Paul, il enseigne des choses fausses, ou peut-être par inimitié même envers Paul. Tout n'était pas parfait à l'époque entre les chrétiens concernant l'unité, comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas de motifs purs, c'était pas beau. Et nous ne devons pas annoncer l'Évangile ainsi. C'est vraiment à côté. Mais malgré tout, cela portait quand même des fruits. Et ceci afin que la parole de Dieu se propage. Et Paul disait, ajoutait, qu'importe verset 18. De toute manière, Christ n'est pas moins annoncé. De toute manière, cela doit aussi nous réjouir. Nous devons aussi nous réjouir de manière dont l'Évangile est annoncé, même si nous ne l'acceptons pas. Peut-être les motifs ne sont pas purs. Peut-être pas par amour, peut-être par jalousie. Il y a de toutes sortes de motivations, mais qu'importe, mais que l'Évangile soit annoncé. L'Évangile, d'après la volonté du Seigneur, doit être annoncé d'après des motifs pure, d'une manière pure, mais si certains ne le font pas, que pouvons-nous faire? L'Évangile est quand même la parole de Dieu, elle-même est efficace et puissante et peut tourner les cœurs. Et Paul se réjouissait de la propagation de l'Évangile, et nous nous réjouissons. Car nous sommes si peu. Que pouvons-nous faire? Nous devons l'accepter que le Seigneur annonce l'Évangile dans beaucoup d'endroits. Naturellement, il en va plus que du salut juste des personnes, nous le savons aussi. Il faut aussi cette croissance dans la foi. Il en va aussi du salut de l'âme, de l'édification de l'Église dans l'unité. C'est clair, nous le savons. Et nous pouvons tous avoir une bonne conscience d'annoncer toutes ces vérités de la parole sans que nous ayons à rendre compte à qui que ce soit. Nous l'avons vu et nous l'annonçons. Seigneur Jésus, je sais, verset 19, Philippiens 1, 19, car je sais que cela tournera à mon salut. Sa situation, ces personnes qui prêchaient l'Évangile contre lui, ben, toutes ces choses, ces circonstances difficiles, et personne d'entre nous n'avait ces difficiles, mais tout cela, que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est vraiment une parole merveilleuse, une affirmation merveilleuse. Premièrement, cela veut dire que moi, Paul, j'ai encore besoin de plus de salut. Et cela ne s'arrêtera pas. Il disait de lui-même. Et il disait de lui-même, je ne l'ai pas saisi totalement au chapitre 3. Je ne suis pas encore parfait. Je
ne
suis pas encore au bout. Mais je poursuis le but. Je
ne
suis pas encore arrivé totalement. J'ai aussi besoin de cela, de ce salut dans ma captivité. Je sais que cela tournera à mon salut. Et il y a deux facteurs maintenant qui sont importants pour notre salut. La prière et l'assistance ou l'approvisionnement de l'esprit. L'assistance ou l'approvisionnement de l'esprit et la prière. Et il en dépendait. Lui, le Paul, si spirituel, si fort, il vivait de la prière des saints. Et dans chacune de ses épîtres, presque, il demandait aussi de prier sans cesse, prier en tout temps. Et aussi pour moi, afin que la parole me soit donnée quand j'ouvre la bouche. Il demandait de prier parce qu'il savait qu'il était dépendant des saints et du Seigneur afin qu'il reçoive cet approvisionnement. C'est l'Esprit qui rend la vie. C'est l'Esprit qui transforme. Et nous avons besoin de tous. Nous avons besoin, tous ont besoin des autres. Chacun a besoin de la prière des frères et sœurs. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Non parce que je suis là en train de parler, mais parce que je suis un frère de l'Église. J'ai besoin de prière. Et j'ai besoin de l'approvisionnement de l'Esprit afin que je sois sauvé. Combien c'est important que nous prions les uns pour les autres, dans les réunions de maison, dans les communions de maison, dans les maisons, et nous voulons nous servir les uns les autres. Et cela apporte l'approvisionnement de l'esprit. Et cela Et verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Quand tu reçois un tel approvisionnement de l'esprit, tu reçois aussi ce désir de ne pas lui faire honte. C'est quoi cela? Qu'est-ce que c'est ça, une chose dont j'aurai honte plus tard? Je ne voudrais avoir honte de rien plus tard de ce que je fais maintenant. C'est aussi une bonne règle de vie. Ne fais rien que tu regretteras plus tard ou que tu pourrais regretter plus tard. Ne fais rien. Mais suis le Seigneur, suis Dieu. Suis le Seigneur, suis l'Esprit. Ne fais rien. Et tu ne regretteras rien. Suis simplement la parole. Et donc, mon espérance, selon moi, ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Je veux glorifier Dieu. Dans toute ma pensée avec ma vie de couple, ma famille, pour glorifier le Seigneur. La famille n'est pas un but en soi. Ma famille doit aussi servir. Elle doit aussi glorifier Dieu en toute manière. Qu'est-ce qui doit m'empêcher de servir le Seigneur? Il est là, il m'a donné son esprit. Et alors, en toute assurance ou hardiesse, pas en se forçant, pas avec cette attitude de perfectionniste qui cherche à produire dans une certaine manière de vivre. Considère que c'est pas selon notre force, mais collabore avec le Seigneur. C'est ça qui sera notre assurance quand toute chose nous pourrons glorifier le Seigneur, soit par ma vie, soit par ma mort. Ce n'est pas une chose si extraordinaire. C'était une attitude intérieure qui avait été produite par l'Esprit et par la prière des saints. Et il était là. Il était vraiment, il prenait position pour cela. Et il s'efforçait. Il parle de cette vive attente et de cette espérance. Selon ma ferme attente et mon espérance, ma vive attente, ma vive espérance. Et si tu as cela, tu vas le faire un jour. Et tu feras attention à ce que tu ne manques pas le Seigneur dans aucune situation. Nous utilisons toujours des situations pour ne pas suivre parfaitement le Seigneur, parce que je suis malade, parce que je ne peux pas suivre le Seigneur maintenant. Je peux suivre le Seigneur dans ma maladie. Parfois encore mieux. Oh, j'ai ce problème, ce défaut. Glorifie le Seigneur dans ton défaut, dans ton corps. Ne te donne pas d'excuses. Cette attente, cette ferme attente, attends tout du Seigneur et collabore, coopère avec le Seigneur.
das Wort essen, trinken.
Oui, mange, bois la parole. Aie de la communion avec les frères et sœurs. Et beaucoup de choses va être œuvrées.
Und jetzt gibt er diesen wunderbaren Satz.
Et alors il donne cette phrase merveilleuse au verset 21. Car Christ est ma vie, en grec plutôt pour moi vivre, c'est Christ. Pour moi vivre, c'est Christ. Et mourir m'est un gain. Car là, en mourant, il serait auprès de Christ. Mais là, il était mieux de vivre pour lui après, afin que je puisse encore porter un peu de fruit parmi vous. Donc, priez pour une longue vie, afin que nous puissions encore porter du fruit pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur Jésus, Seigneur, qu'il puisse vivre longtemps, afin qu'il puisse porter longtemps du fruit. Nos sœurs bien-aimées, qu'elles vivent encore longtemps. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire quand les frères et sœurs sont venus auprès de Pierre et on dit, ouais, notre sœur avait fait tant de bonnes œuvres, elle avait fait des vêtements, oh, elle vient de mourir. Et Pierre est allé là-bas, a imposé les mains et il lui a dit, lève-toi. Elle a pu continuer à servir. C'est bon d'avoir de tels frères et sœurs. Mais j'ai aussi appris à connaître des frères et sœurs qui sont morts très tôt. Ils avaient le désir de servir le Dieu et servir Dieu et maintenant ils ne pouvaient plus le servir. C'était triste. Mais le Seigneur a pour chacun un chemin et nous ne savons pas quand notre chemin s'arrêtera. C'est pourquoi il est bon d'utiliser chaque moment, chaque temps pour servir le Seigneur. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et ça résume tout. Depuis le matin, je dis, depuis le matin jusqu'au soir, sois tout, Seigneur, pour moi. Ouais, commence à avoir le Seigneur devant les yeux dès que tu te lèves le matin. Dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour que je vive. Quand tu prends un moment le matin, le Seigneur, au petit déjeuner, quand tu vas au travail, à l'école, à l'université. Seigneur, sois tout pour moi. Seigneur, je ne voudrais rien d'autre que te vivre. Comment peut-on faire cela? On ne le fait pas. On est simplement attentif au Seigneur. Il habite déjà en moi. Mon salut était tellement puissant quand j'ai reçu le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur crucifié, ressuscité. Je suis un homme nouveau. J'ai toutes les conditions. Le Seigneur m'a arraché d'une génération perverse et corrompue. Il m'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Je suis en Christ pour l'éternité. C'est quoi tous ces beaux chants? On doit prendre conscience de tout ce que nous avons. Le monde entier est sous la condamnation, la malédiction, dans la mort. C'est le vieil homme. Le vieil homme. Et nous étions un moment aussi un vieil homme dans le vieil homme, et je me rappelle bien, mais l'évangile a brillé et m'a attiré et m'a arraché. Seigneur Jésus,
Et
maintenant, je vis dans cette nouvelle vie. Et je vis en nouveauté de vie. Relis Romains 6. Et vraiment, prenez au sérieux cette parole, ce qui vous est arrivé par cette parole. Ce sont des faits pour Dieu, que je les ressente ou pas, ce sont des faits pour Dieu. Et ce sont ces faits qui comptent, ce ne sont pas mes sentiments, mes pensées ne comptent pas. Mais ce que Dieu a dit, ceci compte. Et ça compte pour l'éternité. Et ça compte devant le trône. Il est mon sauveur. Il est pour moi. Il a été enseveli pour moi. Il est ressuscité et il vit maintenant en moi. Et j'ai aussi la puissance de la croix et de la résurrection en moi. Et je crois. Et alors, ça devient la réalité. Frères et sœurs, Seigneur Jésus, pour moi, vivre Christ, ça concerne toute la journée, chaque jour nouvellement. Et c'est un évangile de vivre une telle vie. C'est une nouvelle qui nous réjouit, d'abord pour moi, et après aussi pour mon entourage. Seigneur Jésus, exerçons-nous simplement, personne n'est parfait, personne n'est si parfait que à chaque minute de la journée, il vit Christ, mais nous nous exerçons et nous avons des expériences quand nous croyons. La foi est dans tant d'aspects la clé. Et c'est pourquoi il dit aussi dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, je vis dans la foi. Avec la foi, il rendait réels les faits de divins. Seigneur, nous te louons. Et encore, pour terminer au verset 25, il dit, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Et c'est pour cela que vivait Paul. Et il était persuadé que Paul était persuadé qu'il allait être libéré à cause des Philippiens, à cause de l'Évangile, pour la poursuite de l'œuvre. Tout est une question de l'utilisation de notre temps. Frères et sœurs, c'est un exercice. Exerçons-nous. C'est une vie de l'Évangile. C'est pas juste que nous prêchons. Nous allons prêcher l'Évangile parfois, mais c'est une vie de l'Évangile. Et naturellement, il est aussi bon d'aller et de prêcher l'Évangile et d'utiliser chaque occasion pour annoncer l'Évangile. Je suis toujours surpris des gens que je rencontre. Il y a peu de temps, j'ai abordé quelqu'un. Il était totalement surpris. J'avais un petit traité de la foi. Est-ce que pour vous, c'est un concept? La foi? Ah oui, oui. J'étais un jour croyant. Un jour, j'étais croyant. Et nous avons commencé à parler. Et j'ai remarqué. Et j'ai remarqué qu'à chacune de mes phrases, il s'ouvrait nouvellement. Si vous êtes croyant, alors Christ habite en vous. Il l'a reçu. Et ce Christ est un salut éternel pour vous. Vous ne pouvez plus devenir vous restez un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas plus être un enfant de Dieu. Vous devez revenir à votre Sauveur, à votre Dieu et Sauveur. Et son cœur s'ouvrait. Nous allons voir comment les hommes peuvent être regagnés pour le Seigneur. Et peut-être aussi pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Et c'est encore un pas supplémentaire.